peut-être on peut commencer d'une définition assez lâche, assez courante du matérialisme, qui consiste à dire le matérialisme, c'est une position ontologique qui consiste à affirmer que tout ce qui existe est matériel. Tout est matière, ou du moins tout est produit de matière, à savoir ce qu'on appelle l'âme ou l'esprit. C'est pas quelque chose de réellement, sont pas des choses réellement distinctes du corps, c'est pas des substances d'un autre type que les substances corporelles, mais c'est des choses qui sont produites par certaines modifications matérielles particulières. On dirait aujourd'hui des modifications du cerveau, et je pense qu'on le pensait déjà dans une large mesure à l'époque de Descartes. Et en ce sens, on peut dire que le matérialisme, c'est une position moniste, à savoir il y a un seul type de réalité dans l'univers qui sont les corps. Alors, en ce sens, est-ce que Descartes est matérialiste? La réponse est d'abord non. Descartes n'est pas matérialiste. Descartes s'est même employé à réfuter le matérialisme au début des méditations métaphysiques, dans les fameuses pages où il explique que je peux bien douter de l'existence des corps extérieurs, je peux même douter de l'existence de mon propre corps, mais tandis que je doute, le simple fait de douter, c'est-à-dire de penser, ne me permet pas de douter que moi, j'existe, moi ici, c'est l'esprit en tant que substance pensante. Voilà, il me semble, la première approche qu'on peut avoir au sujet de Descartes et le matérialisme, Descartes comme opposant, Descartes comme réfutateur des positions matérialistes.
Et ce qui me frappe, pour revenir à l'exemple que tu as pris, à celui des méditations, quand on regarde l'échange entre Descartes et Gassendi dans la Disquisition Metaphysica, ce qui me frappe, c'est que Gassendi va mettre le doigt sur un problème, sur la nature de ce « je » qui s'envisage lui-même au début des méditations comme un air, un vent, etc., bref, comme tout entier matériel. Et il dit à Descartes, mais finalement, ce « je », c'est vous. Et donc, vous avez commencé, au moins vous aussi, par être matérialiste. Quand on regarde la manière dont Descartes lui-même argumente dans le sixième scrupule aux sixièmes réponses, hein, tu sais, quand il fait l'histoire, hein, une histoire particulière, il faut le dire, de son esprit, quand il explique ce que signifie, en gros, nous avons tous été enfants avant que d'être hommes, eh bien, il l'illustre justement par cette tendance que nous avons, d'une certaine façon, à tout matérialiser. Donc, qu'est-ce qu'il répond Descartes à Gassendi dans ce cas-là? Il dit, non, pas du tout, ça n'est pas du tout ce que vous croyez, ça n'est pas un moment constitutif de l'itinéraire cartésien, ça n'est pas moi, j'ai dit « je » parce qu'il fallait bien que je m'accommode à la façon traditionnelle de penser, etc. Donc, il est obligé, par réaction face à quelqu'un qui, d'une certaine manière, l'accuse de matérialisme potentiel ou lui demande de se positionner par rapport à ce matérialisme, il est obligé de fermer ce qui est pourtant bien un des possibles de son texte. Et alors, quand on regarde la façon dont les choses se sont passées dans l'histoire de la réception, ce qui me frappe, c'est aussi que quand les œuvres de Descartes ont été mises à l'index, aux alentours des années 1660, un des chefs d'accusation principaux, c'était le potentiel subversif de sa définition de la matière, hein, d'identification justement de la matière à l'étendue. Et puis, finalement, le potentiel subversif de textes comme l'article 47 de la troisième partie des Principes, dans lesquels il explique que la matière peut prendre successivement toutes les formes. Et enfin, lorsqu'on va encore un petit peu plus loin dans le temps, on constate que, de fait, certains, comme Marx dans La Sainte Famille, qui glose Renouvier sur ce point, ont très clairement vu la possibilité, la fécondité de ce qu'on pourrait désigner comme un matérialisme médical, hein, qui s'enracinerait dans les textes de Descartes et qui, trouverait sa condition de possibilité ou exploserait dans l'œuvre de Régis, suivie par La Maîtrise, suivie par Cabanis, etc. Donc, quand on regarde les choses d'un petit peu plus près, on s'aperçoit que ce rapport de Descartes au matérialisme, au sens où tu l'as défini tout à l'heure, il est un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Et peut-être que pour le dynamiser et le complexifier encore davantage, on pourrait faire une distinction qui, là encore, est plus contemporaine, ou en tout cas qui est ultérieure à Descartes, mais qui est opératoire pour voir la manière dont ça se passe chez lui et comment il est reçu, une distinction entre matérialisme et empirisme. Les empiristes désignant ici ceux qui ne se positionnent pas nécessairement sur la nature non spirituelle de l'esprit, mais qui en tout cas renvoient la possibilité de le prouver dans un autre domaine que celui de la philosophie ou de la raison. En l'occurrence, pour des gens comme Régis, etc., dans le domaine de la révélation.
Il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais rebondir là dans ce que tu dis. C'est premièrement, quand tu parles de ces fameuses joutes entre Descartes et ceux qu'on a pu désigner comme des adversaires matérialistes de sa pensée, Hobbes, Gassendi, Réjus dans une certaine mesure, même si ce n'est pas une forme explicite de matérialisme qu'on pourrait s'y attendre, c'est premièrement le caractère un petit peu, quoi, moi ça m'a toujours paru un petit peu décevant de ces textes. C'est-à-dire qu'il semble que Descartes se mette en scène. Descartes est quelqu'un qui a toujours accordé une grande importance à la mise en scène de sa pensée. Il n'y a qu'à penser au discours de la méthode dans lequel il raconte son parcours et sa grande rupture avec l'école pour s'en convaincre. Bon, et dans cette mise en scène de sa pensée, Descartes a toujours adopté un ton extrêmement dur, une très grande distance vis-à-vis des objecteurs matérialistes. Il est beaucoup moins bienveillant et bien disposé vis-à-vis d'eux qu'il peut l'être, par exemple, vis-à-vis de quelqu'un comme Elisabeth, ce qui peut donner effectivement parfois un côté un petit peu décevant à la lecture de ces textes. On aimerait voir Descartes entrer dans des discussions scientifiques, physiologiques, qui pourraient avoir lieu avec Gassendi ou Réjus sur le cerveau, mais Descartes les repousse et refuse de discuter avec ceux qui ne sont pas capables de comprendre sa métaphysique, grosso modo.
On peut voir que ces discussions qui n'ont pas eu lieu, elles ont lieu chez des gens qui succèdent à Descartes et qui sont obligés de les avoir pour répondre à des accusations du type de celles auxquelles je faisais référence tout à l'heure et qui arrivent autour des années 1660 et qui accompagnent la publication d'un texte posthume comme le Traité de l'Homme, par exemple. Je pense à quelqu'un comme Laforge qui, dans les remarques qu'il propose au Traité de l'Homme, revient sur les différentes significations du terme « idée » et va prendre appui sur la conception, disons, physiologique qui en est donnée dans le Traité de l'Homme et va même définir cette position physiologique comme étant clairement cartésienne. Et c'est la définition de, plus psychologique ou plus, disons, immatérielle de l'idée qui va arriver en second plan pour compléter celle-ci et dans la hiérarchie passer devant elle. Mais on voit que ce qui pour nous définit aujourd'hui l'essence du cartésianisme n'était pas la même chose que ce qui, dans leur contexte à eux, était considéré comme étant représentatif de ce cartésianisme.
Oui, tout à fait. Et tu as raison de souligner l'importance, je crois, du Traité de l'Homme dans cette histoire, texte que Descartes écrit au début des années 30, grosso modo, mais qui ne publie pas de tout son vivant. C'est un texte extrêmement important. Pourquoi ? Parce que c'est le seul texte dans lequel Descartes, de manière aussi systématique, aussi explicite, élabore une théorie de ce que on appelait traditionnellement les sens internes, tout ce qui se passe dans le cerveau, le sens commun, l'imagination, la mémoire. Alors, on peut bien trouver des bribes dans ce qu'il a publié, les discours, les passions de l'âme, notamment le discours de la méthode, les essais, les passions de l'âme, on peut trouver des bribes de sa pensée sur le point, mais jamais de manière aussi nette dans le Traité de l'Homme. C'est pour ça que ce traité, je crois, a eu une importance toute particulière dans la constitution de formes cartésiennes du matérialisme. Alors peut-être ce qu'il faudrait souligner à ce sujet, et sur le fait qu'on ait pu recevoir Descartes paradoxalement comme quelqu'un qui impulsait une pensée matérialiste, c'est que on prend souvent deux termes, corps-esprit, mais à l'époque, ce que Descartes a appris à l'école, c'est qu'il y a trois termes. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Et en fait, peut-être en rétablissant ces trois termes, on peut mieux sortir de l'opposition frontale et binaire Descartes contre le matérialisme pour voir ce qu'il y a de complexe dans leur rapport. Ce que je veux dire par là, c'est que dans tout le Traité de l'Homme, Descartes bannit l'âme végétative, celle qui fait vivre, et sensitive d'Aristote. Il montre que le corps suffit, le corps n'a pas besoin de l'intervention d'une âme directrice pour vivre, la circulation du sang, mais aussi, ça c'est une chose beaucoup plus originale à son époque je crois, pour sentir, imaginer, se souvenir et se mouvoir, dans une large mesure. Bon, alors Descartes n'est pas matérialiste au sens où la troisième partie traditionnelle de l'âme, ce qu'on appelait l'âme rationnelle, il maintient son immatérialité. Et même justement, il va adosser son mécanisme au dualisme, les deux étant complémentaires chez lui, c'est-à-dire en faisant basculer l'âme végétative et sensitive du côté de la physiologie pure, j'établis que l'âme, ce n'est que l'âme rationnelle, il n'y a donc pas trois parties de l'âme, et donc je peux mieux prouver l'immortalité de l'esprit, esprit et âme ne faisant qu'un désormais chez lui. Mais on voit bien comment pour des gens qui ont lu le Traité de l'Homme ou qui ont lu la science mécaniste de Descartes, Il y avait possibilité de s'appuyer sur la critique de l'âme aristotélicienne, de l'âme végétative, de l'âme sensitive, en refusant d'y mettre fin et en refusant de s'arrêter aux portes de l'âme rationnelle, en disant bah, faisons le travail jusqu'au bout, accomplissons cette critique-là, ce que Descartes n'aurait pas toléré. Ce que Descartes ne tolérait pas, parce que la parole chez lui prouve le fait qu'il y a quelque chose en l'homme qui est réductible au mécanisme, mais ce que ces textes, dans une large mesure, ont rendu possible. Donc il y a peut-être des tendances, je sais que c'est une notion sur laquelle tu as travaillé, qui...
Oui, ça, et ce que ça m'inspire, c'est qu'à partir de là, évidemment, on peut redynamiser, disons, l'histoire du cartésianisme en proposant un point de vue sur cette histoire qui soit un petit peu différent du point de vue spiritualiste, disons, qui a prévalu pendant assez longtemps, notamment après le passage... dans l'affaire de Victor Cousin et de son école, qui a contribué à institutionnaliser ce modèle. Mais tu vois, quand on considère un auteur comme Malebranche, par exemple, Malebranche qui reprend, qui étend les acquis du mécanisme cartésien, en ajoutant ce petit plus qu'est ce que Guéraud a désigné comme la déchéance du cogito, donc la thèse, disons, d'une âme tout entière remplie de matière, bon, on voit bien comment, avec un auteur qui n'a rien non plus de matérialiste, qui a peut-être... encore moins, si j'ose le dire comme ça, de potentiel matérialiste que Descartes, en raison de ses implications théologiques, on voit bien ce qu'on peut en faire et ce que de fait en ont fait certaines lumières pour penser justement des formes originales de matérialisme.